Bienvenue chez vous, vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la Radio Mondiale Adventiste, et qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est donc parti pour 30 minutes de programme ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes et aussi par internet sur www.awr.org ou encore grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposerons votre chronique santé, quoi de neuf docteur, une revue de presse médicale hebdomadaire présentée par Dany.
Quoi de neuf docteur, un aperçu de la presse médicale concocté par le docteur Patrick Guenin.
Claude Lamblin, bonjour.
Bonjour, Denis.
Eh bien, nous nous retrouvons pour parler encore du tabac. Les articles dans la presse médicale sont tellement abondants que notre médecin préféré, le docteur Guenin, ne se prive pas de nous en parler.
Et il y a raison.
J'entendais récemment un professeur de pneumologie qui était interviewé sur la pollution atmosphérique et qui chaque fois revenait en disant « Oui, d'accord, c'est pas très sain, mais à côté du tabac, ça n'a rien à voir ». Donc, je pense qu'effectivement, comme on le dit souvent aussi, c'est un risque évitable, tout à fait évitable,
mais oui.
Même si ce n'est pas facile d'arrêter de fumer. Alors, un autre sujet qu'on n'a, je pense, pas encore vu, Claude, le tabac, grand ennemi de la vessie.
Mais oui, grand ennemi de la vessie, c'est le type même d'article qui fleurit dans les quelques exemplaires de la presse médicale que nous consultons chaque jour. Cette fois, c'est le docteur Emmanuel Cousin, dans le Journal international de médecine en ligne, qui rappelle ce fait important. Il en fut d'ailleurs question lors du 110e congrès français d'urologie à Paris en novembre 2016. Le fumeur, écoutez bien, le fumeur a 5,5 fois plus de risque de faire un cancer de la vessie que le non-fumeur. Les femmes, hélas, sont en train de rattraper les hommes en la matière. En cas de cystite à répétition, il faut consulter. De même, tout fumeur de 60 ans et plus, qui souffre de troubles mictionnels, devrait réaliser un bilan approfondi pour rechercher une tumeur éventuelle.
Voilà, c'était un article qui était publié en ligne le 2 décembre 2016. Et puis un autre qui concerne les femmes, on le sait que c'est en cas de grossesse sans tabac et sans alcool. Donc arrêter de fumer pendant le premier trimestre de la grossesse, toutes n'y arrivent pas.
Mais non, malheureusement, toutes n'y arrivent pas. Et voici un fait qui m'a paru assez intéressant à vous rapporter. Les auteurs de cet article ont recherché les causes de réussite ou d'échec rencontrées par les futures mamans voulant arrêter de fumer au cours du premier trimestre de leur grossesse. On a mesuré, chez 900 femmes espagnoles, l'influence des caractéristiques socio-démographiques, du degré de tabagisme et de la présence de symptômes psychologiques, anxiété et dépression. Selon des calculs très savants, il en ressort que pour espérer arrêter de fumer, il valait mieux attendre son premier enfant, avoir un diplôme universitaire, avoir un niveau de tabagisme peu élevé avant la grossesse et un score d'anxiété bas. La dépression, donc, l'absence de diplôme universitaire et un partenaire qui fume augmentent les risques de continuer à fumer pendant la grossesse.
Ce qui, on le sait, est fort dommageable. Et c'était le docteur Claire Lewandowski qui citait cela, c'était également le 2 décembre 2016. Ce qui m'a frappé dans cette analyse, c'est que notamment pour le premier enfant, les mamans semblent un peu plus motivées.
Oui.
On le sait, pour arrêter de fumer, la motivation est beaucoup plus importante encore que la volonté.
Exact.
Alors, fumer a des conséquences sur la santé physique, mais également
sur la santé mentale. Il y a maintenant un consensus absolu pour dire que le fait de fumer a des conséquences désastreuses sur la santé physique. L'OMS considère qu'aux États-Unis, il y a davantage de décès liés au tabac qu'au sida. Davantage de morts par le tabac que par le sida. Le tabac est considéré comme la première cause évitable de décès, et même en tenant compte de l'usage de drogues illicites, la consommation immodérée d'alcool, les accidents de la route et les homicides, tous réunis. Le fait de fumer qui est la première cause de décès. Ce que l'on sait moins par contre est qu'il y a également des dommages concernant la santé mental. De récents travaux ont démontré les effets néfastes de la cigarette sur la mémoire pour les gros fumeurs. La mémoire de travail, la mémoire prospective, c'est-à-dire celle qui permet de se souvenir de ses rendez-vous et de l'heure où prendre ses médicaments, ainsi que les fonctions exécutives, ce qui nous permet de planifier des tâches et de ne pas être distrait. Eh bien, ces trois fonctions sont diminuées et continuent à se dégrader tant que le fumeur persiste. Il semblerait que cela soit en rapport avec l'amincissement du cortex, facteur normal de vieillissement, mais qui s'accélère chez les gros fumeurs. Les mêmes conséquences ont été retrouvées chez les fumeurs dits « passifs ». Les personnes qui s'arrêtent de fumer améliorent un peu leurs différentes mémoires, mais ne retrouvent quand même pas les performances du non-fumeur.
C'était donc un article mis en ligne le 24 novembre. Ça venait de Newcastle, de l'université de Northumbria. Et donc, pourquoi pas arrêter de fumer, puisque on le voit, c'est vraiment une cause qui serait évitable, même si c'est difficile d'arrêter de fumer. Et je vous rappelle le petit livre qui vous est offert sur simple demande, 5, 4, 3, 2, 1, j'arrête de fumer. À bientôt, Claude.
À bientôt, Dani.
C'était Quoi de neuf, docteur ? Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast ou nous en demander les articles de presse.
Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
You are not under law. But under grace. You are not under law. But under grace. You are not under law. But under grace.
Sin shall not be your master, because
you are not under law.
But under grace. Sin shall not be master, because
you are not under law,
but under grace.
What then?
Shall we sin because we are not under law, but under grace? Oh, what then? Shall we sin because we are not under law, but under grace? Find all means.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Quoi de neuf, docteur, que vous retrouverez bien sûr sur cette même antenne lundi prochain à la même heure. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, alors il vous suffit pour cela de nous le faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77 193 Damary-Lélis-Cedex.
Flash Bible. Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat.
Dans cette émission aujourd'hui, on va découvrir un petit livre de la Bible. Il s'agit de la lettre écrite par Jacques. Alors, qui est ce Jacques? Jacques-Daniel Rochat, qu'est-ce qu'on sait de celui qui a écrit ces 5 chapitres de la Bible?
Alors, l'auteur de cette lettre, cette épître, est très probablement le frère de Jésus. Déjà dans les évangiles, on voit que Marie a eu d'autres enfants, et puis Jacques fait partie de ceux-ci. Ainsi, les évangiles, les actes des apôtres et d'autres textes bibliques indiquent que l'un des frères de Jésus s'appelait Jacques, et qu'après la mort et la résurrection du Christ, il devient un des piliers de l'Église.
Donc Jacques connaissait bien Jésus, c'était un témoin privilégié hein, du Christ. Qu'est-ce qu'il va transmettre comme message, ce Jacques ?
Alors, Jacques a très vite compris que les croyants et les communautés chrétiennes, qui étaient tout au début, hein, à cette époque-là, elles n'avaient même pas le Nouveau Testament, donc elles étaient totalement suspendues à des dimensions orales, aux témoins qui venaient les rencontrer. Il a très vite compris que ces communautés pouvaient se perdre dans une forme de religiosité d'apparat, dans des décors somptueux, la poursuite du prestige ou des richesses, la recherche du pouvoir, toutes sortes de ces dérives-là qui auraient fait perdre l'essence même de l'évangile. Alors face à ces dérives, Jacques remet en lumière le centre. En fait, il dit mais voilà, on va revenir aux choses essentielles. Ainsi, dans le premier chapitre, au verset 27, il définit la vraie religion. La vraie religion, c'est quoi ?
Alors, la vraie religion, selon ce verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde.
Voilà, tout un petit programme. Hein.
Oui.
Et beaucoup de gens diraient, oui, la religion, ça serait de réciter je ne sais pas quoi, ça serait de faire...
Les prières,
exactement. Oui. Et pas du tout. Lui, il met en avant justement les orphelins, les veuves, donc les pauvres, les gens qui ont besoin. Et puis aussi à se préserver des souillures, c'est-à-dire à ne pas entrer soi-même dans des choses qui pourraient nous abrutir ou nous faire perdre notre dignité. La vraie foi, c'est pas simplement de croire en Dieu. Vous savez qu'il y a même une parole qui dit que même les démons croient en Dieu. Donc c'est pas cela de croire en Dieu, mais la vraie foi, c'est accueillir Dieu dans sa vie. Et l'épître de Jacques apporte un correctif. C'est un peu comme les petits logiciels, hein. Tous ceux qui font de l'informatique le savent. Il faut parfois installer un petit programme dans un ordinateur qui est censé résoudre des problèmes. Eh bien, c'est ce que fait Jacques avec ces quelques chapitres. Il envoie un petit correctif, en quelque sorte, aux croyants pour que, justement, disons, l'Église, la communauté chrétienne puisse bien fonctionner. Et c'est un peu triste de réaliser que les conseils de Jacques auraient pu éviter bien des dérives dans l'Église, bien des scandales. Et on peut penser à tous ces moments donnés où l'Église a voulu prendre le pouvoir, où elle était plutôt à la recherche de la richesse, de l'argent, du pouvoir politique, même de l'usage des armes. Si seulement le petit programme, le logiciel que Jacques avait donné avait pu entrer dans les rouages de ces communautés, on aurait évité bien des problèmes.
Et puis justement, ce qui est intéressant, c'est que Jacques commence son livre en disant que la foi, c'est quelque chose qui conduit souvent à des épreuves et que c'est pas facile de vivre d'une manière juste dans ce monde.
Oui, effectivement, c'est des fois il y a cette vision et même il y a des théologies comme ça où le fait d'être chrétien, ça va être la belle vie et puis qu'on aura forcément la prospérité, l'argent, etc. C'est vrai qu'il y a une forme de bénédiction. Mais en même temps, c'est vrai que notre vie et même notre foi chrétienne peut nous amener au contraire dans la souffrance, dans les épreuves. Et pour Jacques, il est très important de comprendre que notre vie est éphémère et que les richesses présentes, la notoriété, la gloire appartiennent uniquement à cet espace de poussière. Le riche, quelqu'un qui est riche, il est riche dans ce monde, mais il pourrait être très pauvre dans le monde qui vient. Alors que le juste, même s'il est pauvre, il a un trésor réel dans ce monde qui vient, dans l'éternité. Et il va le dire, en fait, celui qui marche dans l'amour et la justice sera probablement écarté de ceux qui cherchent le pouvoir. L'homme qui est humble, l'homme qui est bon, eh bien, il va certainement se faire peut-être même écraser par les autres. Mais ce qu'il va recevoir plus tard de la part de Dieu est mille fois préférable à toutes les richesses ou pouvoir ou notoriété de ce monde.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un danger là de, par exemple, se projeter uniquement dans l'avenir et puis vivre avec juste cette espérance du futur?
Alors c'est vrai, et c'est là que Jacques nous donne une bonne orientation. Il ne s'agit pas de se mortifier sur la terre pour atteindre de glorieuses promesses ou d'être dans la passivité. Vous avez même des gens qui pensent que plus ils souffrent dans ce monde, plus ils auront en fait des richesses. Il y a même un culte de la souffrance dans certaines déviations chrétiennes. Pour Jacques, non, au contraire. Le vrai croyant est appelé à mettre sa foi en action et à changer le monde. Il doit être plutôt un agent de changement, pas du tout qui est dans la passivité ou dans la souffrance. Il construit avec la justice et l'amour. Et un bon exemple, c'est celui de Martin Luther King qui a combattu l'esclavage avec sa foi et dans l'amour. Et dans ce sens-là, il était parfaitement dans cette ligne que présente Jacques. Car pour Jacques, les actes sont importants. Et nos attitudes face à la passion, la convoitise, la cupidité ou l'orgueil sont déterminantes.
Vous dites que les actes sont importants, mais le salut, ce n'est pas un cadeau qui s'obtient gratuitement, justement?
Oui, effectivement, et c'est bien de rappeler ce que soulignent aussi d'autres textes dans la Bible. C'est pour ça que certains théologiens n'aimaient pas trop l'épître de Jacques, parce qu'ils disaient non, mais le salut vient par... c'est un cadeau, et ce n'est pas nos bonnes actions qui peuvent nous sauver, ni le fait d'aimer les autres, etc. En fait, c'est quand même très complémentaire, parce que Jacques va dire, mais c'est vrai, on peut dire qu'on a la foi, qu'on est sauvé, que c'est un cadeau. Mais quels sont les actes qui vont montrer réellement que cette œuvre s'est faite dans notre vie? L'amour doit être un rayonnement. Je peux dire, oui, j'aime les gens. Oui, oui, je suis quelqu'un qui est rempli d'amour pour les autres. Mais si cet amour ne se traduit pas dans des gestes concrets, des attitudes vraiment, eh bien, la réalité, c'est que j'ai pas cet amour, que c'est une prétention. Donc, le vrai amour doit se manifester d'une manière concrète. Et ça n'est plus une question de calcul, de faire les choses pour obtenir, parce qu'on pourrait aussi avoir cette déviance où je vais vous aimer parce que je sais qu'en vous aimant et peut-être en vous aidant, j'obtiendrai plus tard quelque chose. Ça serait pas cet amour gratuit. L'amour que Jacques préconise, c'est cet amour qui vient de l'abondance de cet amour de Dieu dans notre cœur et qui va me conduire à aimer les autres, même pas parce que je dois les aimer, mais parce que je les aime, et ça c'est très important. C'est cela la vraie religion, il n'y a plus de calcul. Je ne fais pas les choses par calcul, même un calcul spirituel, mais j'aime parce que je suis rempli de cet amour-là. Et je suis sûr que Martin Luther King, dont on a parlé, voulait sortir les hommes de l'esclavage, pas par calcul de ce qu'il obtiendrait plus tard, mais parce qu'il aimait ces gens-là et qu'il souffrait de leur situation.
Et il y a encore une autre notion très forte, hein, je crois, dans cette lettre de Jacques, c'est qu'il n'écrit pas avec une langue de bois, si on peut dire.
Oui, alors effectivement, il y a toute une partie où il va parler de l'importance de la parole. Et c'est intéressant parce que c'est un des textes de la Bible qui le mentionne le plus précisément. Et on peut lire au chapitre 3, au verset 4 et 5, cette mention qui est assez imagée comme cela.
Alors je le lis, « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. » C'est intéressant ça, hein, dans ce monde de communication, est-ce qu'on sous-estime pas l'importance de nos paroles aujourd'hui?
Oui, et disons, je pense que chaque personne qui a voulu être attentive à ce qu'elle disait, s'est rendu compte que c'était quelque chose de pas facile. Le fait de garder un secret, par exemple, de ne pas médire sur quelqu'un, ou des fois des paroles qui nous échappent, ou des pensées qui viennent, et puis une fois qu'on les a dites, eh bien, on se rend compte du mal qu'elles peuvent produire. Et c'est là que j'aime bien, parce que la Bible, c'est pas des choses abstraites, c'est pas des choses religieuses, c'est pas des espèces de choses comme ça, qui seraient dans l'espace ou lointaines, mais c'est très concret. Et là, avec cette question de la bouche, de nos paroles, Jacques va toucher quelque chose de très important. Combien de relations troublées par des paroles méchantes, par des mensonges, par des critiques? Quel est l'impact que cela? Et c'est vrai que nos paroles jouent une influence très importante dans nos relations avec notre conjoint, par exemple, avec nos enfants, nos amis, et même en politique, on voit aussi l'importance des choses qui sont dites. Combien de paroles destructives de moqueries qui finalement peuvent détruire des vies, des familles ou même un pays. Et là, avec Jacques, on se rend compte que Dieu veut toucher cet aspect de nos vies et nous aider à devenir des personnes qui donnent des paroles justes, d'encouragement, de réconfort et des paroles positives.
Au fil des chapitres de cette lettre de Jacques, on voit que l'auteur aborde la question du mal. Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet ?
Alors oui, dans un premier temps, Jacques s'attaque à la pensée que Dieu serait à la fois responsable des bonnes et des mauvaises choses. Et on voit aujourd'hui que cette vision, elle est très présente dans la pensée moderne. Ça vient d'une racine orientale, on peut penser aux notions du yin et du yang, dans lesquelles le bien et le mal seraient toujours mélangés. Jacques démontre que cette vision du bien et du mal est une erreur, et il souligne qu'il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu ne cherche aucunement à entraîner les hommes dans le mal. Et c'est une question qui est traitée plusieurs fois, et qu'on pourrait par exemple aborder au chapitre 4.
Un verset qui dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Là, on se rend compte vraiment que c'est à l'intérieur. Hein.
Voilà, le mal vient des passions, des convoitises. Et Jésus disait, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui va, mais c'est ce qui sort de l'homme, parce que c'est de lui-même que sortent les meurtres, les violences, les querelles, la recherche du pouvoir. Voilà d'où vient le mal. Donc le mal n'est pas quelque chose qui est en Dieu, c'est même pas quelque chose qui est forcément à l'extérieur, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, c'est très important de le savoir. Sur un plan personnel, je pourrais dire je suis chrétien, je connais bien la Bible, je témoigne de ma foi, je travaille dans une association humanitaire, etc., etc. Pourtant, même si j'ai cet arrière-plan, cela ne m'empêche pas d'être une source potentielle de mal. Et c'est là que je dois mener un combat, c'est ma responsabilité. Et c'est ça que Jacques, j'aime bien, parce qu'il nous met dans la réalité. C'est pas notre prestige qui est important, mais finalement, c'est ce combat où à l'intérieur de moi-même, je vais devoir prendre une victoire pour justement faire le bien, être un modèle et pouvoir aimer les autres. Aimer est quelque chose de beaucoup plus difficile que de haïr. Et pour arriver à aimer, eh bien, il faut déjà en quelque sorte avoir réussi à vaincre une bataille à l'intérieur de soi-même. Et à partir de là, on va pouvoir aimer. Tous les gens qui ont beaucoup aimé, c'est des gens qui ont eu beaucoup de victoires à l'intérieur d'eux-mêmes sur toutes ces méchancetés qui auraient pu venir facilement.
Arrive au terme de cette émission. Jacques Daniel, quels sont les propos à même de conclure cette très rapide exploration du livre biblique de Jacques ?
Alors je terminerai ce partage en prenant une parole de l'épître de Jacques que j'apprécie énormément et depuis tout petit. C'est cette parole qui dit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. » Ça c'est assez excellent parce que cette parole nous invite à établir un lien avec Dieu, lui demander qu'il nous assiste. Et l'auditeur avisé comprendra qu'il est impossible d'être juste, d'aimer les autres, de réussir sa vie par ses propres forces. En fait, nous avons besoin d'une assistance. Et l'apôtre Jacques nous invite à nous connecter à Dieu, à demander la sagesse. Et la sagesse, c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est ce qui va nous permettre de faire les bons choix dans notre vie. C'est ce qui va nous permettre de réussir sa vie, non pas selon les critères économiques ou de prestige, mais de réussir sa vie, qu'à la fin d'une vie, on puisse se dire, eh bien, j'ai fait des choses qui étaient bonnes. Non pas parce que j'étais plus intelligent que les autres, mais parce que j'ai eu cette aide de Dieu qui m'a accompagné, qui m'a aidé et qui m'a permis de prendre les bonnes décisions. Qui m'a permis peut-être des fois d'entrer dans une toute petite porte, mais derrière cette petite porte, il y avait de grandes bénédictions. Et pour moi, c'est certainement la chose la plus importante. Ce qui est le plus important, c'est pas d'avoir un bagage dans lequel on aurait toutes les choses, mais c'est d'avoir un lien avec quelqu'un qui a toute la sagesse, toute la connaissance, tout l'amour nécessaire. Et finalement, c'est cette alimentation dans notre vie qui fait que notre vie va être une bénédiction pour les autres.
Les feux des projecteurs de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques Daniel Rochat. Au revoir et à bientôt.
Où
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Au nom de l'amour.
Est-ce un nouveau film?
Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC.
IEBC?
Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits.
Tu as raison. Au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous écouter par téléphone depuis la France. Il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. En dehors de France, vous faites le 00 33 1 80 14 44 77. Et si vous nous écoutez depuis les États-Unis, eh bien vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien c'est la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193, Damary-les-Lys, Cedex. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous donne rendez-vous à demain sur cette même antenne.